Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes le 5 septembre aujourd'hui, jour anniversaire de la naissance de Louis XIV. Pas besoin de se demander de qui Franck Ferrand a choisi de nous parler sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a un côté superstitieux finalement dans cette programmation. Hier, nous étions le 4 septembre, jour anniversaire de la chute du Second Empire, et nous avons parlé de Napoléon III.
C'est vrai.
Eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui, 374e anniversaire de la naissance de Louis XIV, nous vous parlons de celui que l'histoire a surnommé le Grand Roi. Ces anniversaires ne me font pas oublier l'actualité et tous ceux de nos auditeurs, notamment les plus jeunes qui depuis hier sont de retour en classe, je les salue tous très chaleureusement.
Alors justement Franck, pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas eu encore le temps de nous écouter depuis 10 jours, précisons que l'émission a un peu évolué cette année.
Oui, alors on pose les bases cette année avant de se plonger dans le récit. Le récit a lieu à 13h30, c'est pratique, on nous dit toujours on ne sait pas quand choper le récit.
C'est un rendez-vous.
Voilà, 13h30, et puis nous recevons un auteur ou une personnalité en rapport avec le thème du jour. Je le dis d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire sur le site internet d'Europe 1 pour nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle organisation. Cette émission est la vôtre et notre seule ambition, vous le savez bien, c'est de vous faire plaisir.
Et alors sur Louis XIV, qu'allez-vous nous dire exactement aujourd'hui?
Eh bien, je vais essayer de vous démontrer qu'aucun roi jamais n'a été à ce point entouré de femmes remarquables, extraordinaires et qui ont, disons-le, décidé de la physionomie de son règne. Vous voulez que je vous dise, Julia, le vrai sujet d'aujourd'hui, ce sont elles.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Sa mère s'appelait Anne d'Autriche. Elle a tenu la France à bout de bras pendant cette révolution larvée qu'on a appelée la Fronde. Sa femme était la nièce de la précédente, Marie-Thérèse d'Autriche. Ses belles-sœurs ont été la flamboyante Henriette d'Angleterre, tête politique s'il en fut, et puis la truculente princesse palatine qui fait un peu partie de nos préférés ici dans cette émission au cœur de l'histoire. Son dernier bonheur dans la vie, ça a été sa petite-fille par alliance, la sublime Marie-Adélaïde de Savoie, la duchesse de Bourgogne, la première grande figure du XVIIIe siècle. Et je ne vous dis rien de celles qui ont enflammé son cœur. Marie Mancini et sa sœur Olympe, Mademoiselle de la Vallière, Madame de Montespan, bien sûr, et celle qui fut secrètement sa seconde épouse. On disait que c'était un mariage morganatique. Madame de Maintenon, dans un siècle de femmes savantes, bonjour Madame de Rambouillet, de femmes de lettres, bonjour Madame de Sévigné, de femmes libres, bonjour Ninon de l'Enclos, Louis XIV a constamment été entouré de femmes, conseillé par des femmes. Elles lui auront fait faire le pire et le meilleur. Ce sont elles que nous convoquons donc cet après-midi à la barre de l'histoire à l'occasion de la réédition d'un livre bien connu de Paul Rebout qui avait été publié il y a 60 ans, Les Alcôves de Louis XIV. Alors, tout à l'heure, dans mon récit de 13h30, je vous raconterai comment Madame de Maintenon, elle était à l'époque encore Madame Scarron, a pu éclipser Madame de Montespan dans le cœur du roi. Auparavant, j'aimerais vous rappeler quelles ont été les femmes de Louis XIV, si j'ose dire, en dehors de la sienne. Et pour ce faire, j'ai demandé, on peut dire à deux grands familiers du grand roi, d'être des nôtres. Éric Le Nabour, écrivain et l'auteur notamment d'une biographie récente chez Pygmalion de Madame de Maintenon. Bonjour Éric Le Nabour. Et Mathieu Davina est directeur scientifique au centre de recherche du château de Versailles, dans la maison fondée avec tant de justesse de par notre amie Béatrix Saul, que nous saluons très chaleureusement. Bonjour Mathieu Davina.
Bonjour.
Alors on peut dire que Louis XIV a été constamment entouré de femmes, je l'ai dit, mais la première femme de sa vie, celle qui va peut-être décider de tout, en tout cas de beaucoup dans la vie du roi, c'est sa mère. Et quelle mère, quelle mama, quelle femme de caractère, hein. Anne d'Autriche.
Oui, Anne d'Autriche, alors comme son nom l'indique, était espagnole évidemment, puisque c'est de la famille de Habsbourg, mais d'Espagne, est une maîtresse femme, en fait, qui se révèle en cours de route, on va dire, à la mort de son mari Louis XIII. Jamais, lorsqu'elle est arrivée en France en 1615, on n'aurait imaginé qu'elle allait prendre une telle ampleur politique. Et c'est la force des événements, en 1643, la mort de son mari, où on la voit prendre vraiment à bras-le-corps les affaires de ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi qu'elle a quand même eu un mariage plus ou stérile pendant près de 23 ans. Louis XIV est né après 23 ans de mariage.
C'est incroyable. Hein. Louis XIII et Anne d'Autriche sont mariés pendant presque un quart de siècle sans faire d'enfants. Donc c'est...
Alors, ils ont essayé. Il y a eu des fausses couches, il y a eu des drames au début des années 1620, parce que Anne d'Autriche était plutôt quelqu'un de frivole qui jouait beaucoup avec la fameuse duchesse de Chevreuse. Et il y a eu donc des fausses couches. Et puis finalement, on sait très bien que les deux époux ne s'entendaient pas très bien. Il y a une légende qui fait naître Louis XIV, 9 mois précisément après
une soirée d'orage
au Louvre.
Très opportune, ça tombait bien, voilà. Cet orage.
En tout cas, quoi qu'il arrive, Louis XIV naît donc le 5 septembre 1638. Il a comme deuxième prénom Dieudonné.
On l'attendait.
Qu'on l'attendait. Puis il y aura un deuxième fils 2 ans plus tard. Donc c'est vraiment ces deux bébés qu'elle va défendre avec le cardinal Mazarin.
Quel fils était Louis XIV, mais aussi quel mari et quel amant, c'est ce que nous voyons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 du roi Soleil et de toutes ces femmes extraordinaires qui toute sa vie l'ont entouré en compagnie de vos invités. Franck, Mathieu Davina qui est historien, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, et Éric Le Nabour qui est écrivain.
Alors Éric Le Nabour, il faut que nous parlions de l'attitude générale de ce roi vis-à-vis des femmes. On sait que c'est François Ier qui disait qu'il n'est pas de belle cour sans belles femmes. Louis XIV n'était pas loin de partager ce point de vue. Il s'est toujours entouré de très jolies dames. La cour de Saint-Germain puis de Versailles en a été littéralement fleurie. Est-ce qu'il était lui-même d'un naturel ouvert envers la gent féminine ?
Moi, je pense toujours à cette phrase de la Palatine, qui était d'ailleurs la belle-sœur de Louis XIV, qui était amoureuse de lui, et qui disait de toute façon, les femmes, il prend tout ce qu'il a à sa portée, pourvu qu'elles fassent semblant de l'aimer. Et Louis XIV a été un homme à femme. Vous savez ce qu'on dit, sans faire de la psychanalyse à petite semaine, c'est qu'un homme qui a été aimé par sa maman, en général, a des rapports beaucoup plus faciles avec les femmes. Effectivement, Anne d'Autriche l'a énormément aimée, c'est un amour réciproque. Elle a joué un grand rôle dans la mesure où elle était un modèle par l'attitude qu'elle a eue pendant la Fronde et que Louis XIV a pu observer. Et donc elle a joué
elle
un rôle essentiel.
Elle meurt en 1666, hein, donc oui. Il n'a pas tout à fait 30 ans à l'époque encore.
Tout à fait, oui. Et donc elle a joué un rôle essentiel. Après, le comportement général de Louis XIV avec les femmes, je passe sur la période très jeune où il faisait l'escalader château de Versailles pour les rejoindre, les bonnes dans leur petite soupente, enfin pas Versailles à ce moment-là, Saint-Germain, mais et au Louvre aussi. Mais après, c'est un comportement qui est assez complexe, comme le personnage d'ailleurs. C'est quelqu'un qui s'enflamme très facilement, qui peut aussi se détacher très facilement, mais qui a quand même un comportement relativement égoïste, il faut bien le dire, sans faire de nuances.
Il a eu quand même un certain nombre de coups de foudre dans sa vie. Hein. C'était quelqu'un qui avait un peu, ce qu'on dit aujourd'hui, on parle d'un cœur d'artichaut. Il tombait relativement souvent amoureux. Et en même temps, on se demande si les femmes, elles, l'aimaient vraiment pour lui-même ou pour la fonction. Elles aimaient le roi. Oui.
En fait, il y a plusieurs périodes. On peut évoquer sa jeunesse dans les années 1650, où il y a vraiment, je pense, un véritable amour sincère de la part du roi pour Marie Mancini, qu'il voulait épouser. Et puis, évidemment, il se rend à la raison d'État, puisque sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin le renvoient à la raison d'État. Et par la suite, effectivement, il tombera amoureux aussi. On ne sait pas s'il tombe vraiment amoureux. En tout cas, Louise de la Vallière, pour le coup, je pense, était véritablement amoureux de l'homme et non pas du roi. C'est certainement la seule à avoir aimé l'être humain, c'est-à-dire Louis, et non pas Louis XIV, le roi de France. Par la suite, les grandes maîtresses, évidemment, ce sont des alliances ou des histoires extraordinaires.
Quand vous dites les grandes maîtresses, c'est Montespan maintenant, en fait.
Oui, voilà. Alors après, qui sont dans un style assez différent, où Madame de Montespan est là. Maîtresse, à mon sens, du règne, et qui, ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui se trouvent, qui sont tous les deux altiers et qui ont le même comportement, on va dire, entre guillemets, tapageur.
Ils font un peu ton sur ton, mais ils ont l'âge pour faire du bruit et pour faire la fête. Y a quand même une personne dont on ne parle pas beaucoup dans cette histoire pour le moment, c'est l'épouse du roi, parce qu'après tout, il était marié, cet homme-là, tout de même.
Il était marié, effectivement, depuis 1660, alors par raison d'État, pour mettre fin à la guerre qui sévissait entre l'Espagne et la France depuis une guerre de plusieurs décennies. Et Marie-Thérèse, elle, était amoureuse de son mari. Et c'est vrai qu'elle l'a vu, on lui a présenté les
elle était donc la fille du roi d'Espagne, voilà, elle était la cousine de Louis XIV.
C'est la cousine doublement germaine, c'est-à-dire qu'ils sont germains et par leur père et par leur mère. D'où effectivement des enfants dont très peu d'enfants, seul l'aîné a survécu. Mais elle est follement amoureuse, sauf qu'elle ne s'est jamais faite véritablement à cette cour de France. Elle n'a jamais appris correctement le français. Elle est restée entourée pendant très longtemps de ses nains, comme elle l'était à la cour d'Espagne. Et on parlait de sa sottise. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de sa sottise? Je ne sais pas. Il n'y a pas de.
Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Le Nabour? Elle était idiote, Marie-Thérèse d'Autriche?
Bah, disons que c'était quand même pas une femme d'une intelligence redoutable. Bon, ce que vient de dire Mathieu Davina est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'elle s'est jamais adaptée à la cour de Versailles. Bon, quand on le raconte, par exemple, que généralement à son lever, quand Louis XIV était venu la voir, ce qui était quand même très fréquent, elle applaudissait des deux mains pour dire qu'elle était contente. Enfin, je veux dire, ça donne quand même une image, voilà, un peu enfantine du personnage. Elle l'a aimé très certainement. Pour revenir en deux minutes sur Louise de Lavallière, je crois qu'effectivement, il n'y a aucun doute.
On va y venir sur Louise de Lavallière tranquillement, je vous rassure.
Mais pour ce qui est vraiment de Marie-Thérèse, bon, de toute façon, on sait très bien que c'est un mariage absolument politique, et que de toute façon, Louis XIV était déjà rentré dans un cycle amoureux mouvementé, donc c'était pas sa femme qui allait l'arrêter.
Et puis quand même, il a renoncé à une passion de jeunesse pour épouser, pour faire ce mariage d'État, ce mariage de raison. Ça n'a pas dû être facile pour lui non plus de renoncer à Marie-Mancini pour épouser cette princesse espagnole.
J'allais dire encore, une fois de plus, sans vouloir faire de mauvaise philosophie, mais que généralement, on a souvent ce type de circonstances, quelqu'un qui renonce à un amour de jeunesse après un comportement amoureux assez mouvementé, ce qui a été le cas de Louis XIV.
Oui. Alors, qui était aussi, parce qu'il faut que nous en disions un mot avant de revenir aux maîtresses royales, aux célèbres favorites, qui étaient les belles-sœurs du roi et quelles ont été les relations assez étranges, pour ne pas dire ambiguës, qu'il a entretenues avec elles? Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et avant de retrouver le récit de Franck à 13h30, vous l'avez compris maintenant sur Europe 1, nous nous intéressons aux femmes de Louis XIV en compagnie de Mathieu Davina, historien, auteur notamment des valets de chambre de Louis XIV chez Perrin Tempus. Également avec nous, Éric Le Nabour, écrivain et auteur de La Marquise de Maintenant chez Pygmalion.
Nous disons les femmes de Louis XIV entre guillemets, mais à la limite on pourrait presque ôter les guillemets, tant elles ont été effectivement les femmes qui ont accompagné le grand roi pendant toute son existence. On dirait un mot de la princesse de Soubise, tiens, j'y pense en parlant d'accompagner. Venons peut-être à ses belles-sœurs. Le roi aimait les femmes, je crois que tout le monde l'a bien compris maintenant. Ce n'était pas le cas de monsieur, son frère, qui préférait, lui, les messieurs, et qui néanmoins a été marié deux fois. Alors une première fois avec Henriette d'Angleterre, personnage extraordinaire, et pour lequel le roi lui-même aurait eu quelques penchants, Mathieu Davina.
Oui, Henriette d'Angleterre, qui est la cousine germaine du roi et puis de son frère monsieur, et s'est mariée avec son cousin.
Donc monsieur, c'était le titre qu'on donnait au frère du roi à la cour.
Le frère aîné, donc Philippe d'Orléans. En 1661, on parle d'une aventure, en tout cas où Louis XIV aurait été sensible au charme de sa belle-sœur. Et la belle-sœur était assez jalouse d'ailleurs quand Louis XIV l'a abandonné et délaissé. Et monsieur, étrangement, même si on l'a dit, aimait les messieurs, se plaint de cette amourette, en tout cas, auprès de sa mère, Anne d'Autriche, qui essaye de remettre de l'ordre entre ses deux fils pour que Louis XIV abandonne cette amourette. Et il y a tout un manège qui se met en place, un système de paravent qu'on retrouvera régulièrement tout au long de la vie amoureuse de Louis XIV, où on jette dans les bras une demoiselle d'honneur d'Henriette d'Angleterre, qui est Louise de Lavallière, on trouve un peu gauche et on dit qu'il va servir de paravent pour faire croire que Louis XIV ne s'intéresse plus du tout à Henriette d'Angleterre. Finalement, le paravent est tellement bien fait que Louis XIV tombe non pas dans les griffes parce qu'elle n'a rien à demander, cette pauvre Louise de Lavallière, mais tombe amoureux lui aussi de Louise de Lavallière.
Alors, cette Henriette d'Angleterre va disparaître dans des conditions qui longtemps ont été considérées comme une énigme historique, même si aujourd'hui on n'y croit plus trop. On pense qu'elle est morte de sa belle mort et non pas empoisonnée par les amants de son mari, comme on l'a longtemps cru. Quoique, certains continuent de le penser. Monsieur ne va pas rester veuf longtemps. On le remarie avec une princesse allemande, avec Liselotte, avec Elisabeth Charlotte de Bavière, plus connue sous le nom de princesse palatine, Éric Le Nabour.
Et là, c'est pas du tout la même personne. Qu'Henriette d'Angleterre. Personnage truculent d'ailleurs et très sympathique, qui aimait manger, boire, jurer, qui se sentait d'ailleurs très très mal à la cour de Versailles. mais qui avait une intelligence brillante. On a toute une correspondance où elle est une grande observatrice de la cour. Je dirais même, toute proportion gardée, bien sûr, parce que Saint-Simon est un grand mémorialiste, mais que ses lettres sont aussi intéressantes que les mémoires de Saint-Simon pour comprendre comment fonctionne la cour et avoir des détails parfois scabreux, d'ailleurs. Mais la Palatine n'a pas échappé à la règle. Elle a été amoureuse de son beau-frère. Amour qui, évidemment, était totalement impossible, car ce n'était pas le style de femme qui pouvait attirer le roi.
Ah oui, ça, évidemment.
Mais néanmoins, un personnage très sympathique.
Oui, et au moment de sa mort, Louis XIV a des mots très touchants pour sa belle-sœur. Hein, et on sent qu'il a vraiment eu avec elle une relation très privilégiée, tout à fait intellectuelle, bien entendu.
Oui, oui, de toute façon, il avait une forme d'affection pour elle qui était...
C'était très très proche. Hein, c'est-à-dire que Louis XIV l'emmenait régulièrement à la chasse. C'est-à-dire que c'était quelqu'un... Elle disait elle-même, monsieur est presque une femme et je suis presque un homme, on disait ça à la cour et Louis XIV disait de sa belle-sœur que c'était la seule à apprécier les jardins de Versailles, en tout cas ils sont très très proches,
j'allais presque dire moralement. Que c'était un couple à la Dubout, mais...
un peu de ça peut-être finalement, avec beaucoup d'avance et un peu d'anachronisme. La grande maîtresse de Louis XIV restera évidemment Madame de Montespan. Je vous propose d'écouter une de ses colères homériques, cet extrait du film tiré du très beau roman de Françoise Chandernagor, L'Allée du Roi.
Croit-on que je vais supporter patiemment que le roi prenne les filles d'honneur de la reine pour son harem? On nous dit qu'il a mis Mademoiselle de Théobon dans son lit. On murmure déjà qu'il a des vues sur Mademoiselle de Lamotte et Madame de Ludre. Les autres n'aspirent qu'à succomber. Ces filles font de la cour un mauvais lieu. Madame de Richelieu ouvrira les yeux à la reine et vous verrez que la reine les chassera.
Finalement, voilà un grand nombre de noms qui sont comme ça jetés par Madame de Montespan. Le roi avait beaucoup de maîtresses, Mathieu Davina.
Le roi avait effectivement beaucoup de maîtresses et contrairement à ce qu'il y aura sous Louis XV, ce sont généralement des grands noms de la noblesse française, même
Louis XV,
si évidemment il a des passades. Mais Madame de Montespan restera pendant une dizaine d'années la grande maîtresse et elle voit ses mouches, comme Madame de Sévigné les appelait, passer, mais elle ne s'en inquiète pas trop parce qu'elle fait confiance à son esprit Mortemart. Et du coup...
Elle sait qu'elle domine la situation.
Elle sait qu'elle domine la situation jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que, voilà, les années passent et Louis XIV se lasse.
Alors cette Montespan, nous allons la retrouver dans le récit dans un instant. Il me reste à vous remercier beaucoup tous les deux de nous avoir, d'avoir entrouvert, si je puis dire, le rideau, la courtine sur les coulisses de Versailles. Je rappelle, Mathieu Davina, que vous êtes l'auteur, entre autres, du Versailles de Louis XIV, paru chez Perrin, et qui va ressortir là bientôt dans la collection Tempus, dans la collection de Poche de Perrin, et puis d'Éric Le Nabour, entre autres ouvrages également, La Marquise de Maintenon, c'était chez Pygmalion en 2007. Merci à vous.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui à Madame de Maintenon.
Madame de Montespan.
De Montespan, je me suis trompée.
Elle a fait ses débuts à la cour pour le carnaval de 1662, dans toute la splendeur de ses 21 ans épanouis. Elle est issue d'une des plus grandes familles du Poitou, les Rochechouarts, mariée à un marquis de haute lignée lui-même, il appartient à la famille Dantin. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, dite Mademoiselle de Tonnet-Charente, marquise de Montespan, attire d'emblée tous les regards. Tous, sauf celui du jeune roi, Louis XIV a 24 ans, mais disons qu'en ce début d'année 1662, il est amoureux, mais alors amoureux fou, d'une certaine Louise de la Vallière. Et donc il ne regarde aucune autre femme, c'est comme ça quand on est très amoureux. Athénaïs est pourtant, je vous prie de le croire, de toutes les fêtes, de toutes les réjouissances d'une cour toute jeune et qui s'amuse beaucoup forcément. Tout de même, en 1665, on voit le roi lui sourire avec insistance. En 1666, il danse avec elle dans le ballet des Muses. En 1667, en mai, il fait avec Madame de Montespan une promenade en carrosse, dans sa propre voiture. L'occasion de goûter l'esprit très vif, très piquant, mordant de cette jeune femme pleine d'assurance et de gaieté, et dont le tempérament tranche si fortement sur celui de la douce Louise de la Vallière, qui est un petit peu effacée en vérité. La faveur de Louise de la Vallière est peut-être déjà sur le déclin. Toujours est-il qu'on la titre duchesse, c'est pas bon signe ça. On légitime sa fille alors qu'elle est elle-même enceinte d'un autre enfant du roi. À l'été, au moment où le roi part pour l'armée, il prend le chemin des Flandres où ont lieu les combats de la guerre de Dévolution, quelques dames de qualité seulement sont autorisées à suivre sa majesté. Alors mademoiselle de Lavallière est enceinte, je vous l'ai dit. Elle va donc rester à Saint-Germain. En revanche, madame de Montespan est du voyage. Tiens, tiens. Évidemment, Louise de Lavallière s'affole de ce qui ressemble à un passage de main, et d'autant plus qu'elle est, comme nous l'avons dit dans cette première partie, elle est sincèrement amoureuse non seulement du roi, mais de l'homme, Louis. Lavallière prend sur elle de faire le voyage des Flandres, sans invitation. La voilà qui se présente de but en blanc au camp du roi. Louis XIV est vexé, sans doute, mais il reste courtois. Vous savez qu'il est toujours maître de lui-même. Il envoie sa maîtresse, sa favorite du moment, au camp d'Avène, où se trouve la reine, avec ce qui a suivi de la cour. Seulement, il va punir l'initiative en marquant publiquement des prévenances pour cette madame de Montespan qui, décidément, est de plus en plus attrayante. Le 2 octobre, mademoiselle de Lavallière accouche d'un fils, le comte de Vermandois. Voilà qui la tient à l'écart des fêtes qui, depuis le retour du roi, ne cessent plus à Saint-Germain. On peut dire que les bals succèdent aux bals. Le roi, visiblement, s'est entiché d'Athénaïs. Mais avec beaucoup d'habileté, celle-ci fait comme si de rien n'était. Elle est aussi discrète sur ce chapitre qu'elle peut se montrer par ailleurs indiscrète sur tous les autres. Elle a compris que sa situation de femme mariée gênait le roi et que ça lui donnait des scrupules, et donc elle reste un peu en retrait. L'amour, le grand amour, n'éclot au grand jour qu'à l'été suivant, lors du célèbre divertissement royal que donne le roi tout exprès dans le parc de son petit château. Oui, à l'époque c'est encore un petit château de Versailles. 4 ans plus tôt, les plaisirs de l'île enchantée avaient marqué la faveur de mademoiselle de Lavallière. Et bien cette fois, ce triomphe de Bacchus marque la faveur de la nouvelle favorite, Athénaïs de Montespan. Les faveurs, les attentions royales, les présents dignes du plus grand roi du monde ne vont plus tarder à pleuvoir littéralement sur la jeune femme qui reçoit tout cela avec le naturel et l'air d'évidence que lui ont conféré sa haute naissance et son tempérament altier. Rien ne pourrait étonner véritablement Athénaïs, même la fameuse robe d'or qu'a si joliment décrite madame de Sévigné dans une de ses fameuses lettres à sa fille. Une robe d'or, nous dit madame de Sévigné, rebrodée d'or, rebordée d'or, et par-dessus tout, un or frisé, rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée. Ce sont les fées qui ont fait en secret cet ouvrage. Âme vivante n'en avait eu connaissance. On l'a voulu donner aussi mystérieusement qu'elle avait été fabriquée. Le tailleur de madame de Montespan lui apporta l'habit qu'elle avait ordonné. Il en fit le corps c'est-à-dire le cœur, le corsage, si vous voulez, sur des mesures ridicules. Voilà des cris et des gronderies, comme vous pouvez penser. Le tailleur dit en tremblant « Madame, comme le temps presse, voyez si cet autre habit que voilà ne pourrait point vous accommoder, faute d'autre. » On découvre l'habit. Ah, la belle chose! Ah, quelle étoffe! Mais vient-elle du ciel? Il n'y en a point de pareil sur la terre. On essaie le corps. Il va à peindre, le roi arrive, le tailleur dit « Madame, il est fait pour vous » et l'on comprend que c'était une galanterie.
Cannes sur Europe 1, composée par Jacques Cordier, Franck.
On est exactement dans l'époque, là. Évidemment, on a l'impression que tout ça se passe au pays des fées, c'est merveilleux. Il y en a un qui n'est pas d'accord tout de même, c'est le marquis de Montespan, parce qu'elle est mariée cette dame néanmoins. Ah. Vous savez que Jean Tellet en a fait un livre célèbre, bien entendu. Lui passe son temps à souligner son infortune, il fait scandale, et ce scandale, il manque de le payer cher. Il est décrété d'arrestation, il n'a que le temps de s'enfuir et d'aller traîner sa colère dans ses lointaines terres.
Le récit de Franck Ferrand.
La suite du récit de Franck consacrée aujourd'hui à madame de Montespan.
Madame de Montespan, effectivement, qui a succédé officiellement à Louise de Lavallière dans le cœur du roi. Alors, que devient-elle cette pauvre Louise? Bien sûr, elle n'a qu'une idée, elle, c'est de se mettre en retrait et c'est d'aller se réfugier dans quelques cloîtres pour essayer d'expier le reste de sa vie tous les péchés qu'elle a commis. Mais le roi ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il la conserve à côté de lui, si je puis dire, à Saint-Germain. Et ce qui est terrible, c'est que l'appartement de Louise de la Vallière à Saint-Germain est juste à côté de celui d'Athénaïs de Montespan. Et que la disposition des lieux est telle que pour aller chez la première, le roi est obligé de passer par chez la seconde. Vous imaginez comme ça doit être agréable. La marquise de Montespan, à son tour, va donner des enfants au roi. Une fille en mars 1669, un fils en, le 31 mars 1670, ce sera le célèbre duc du Maine. Il y en aura d'autres. Plus tard, ils seront légitimés par le Parlement. Ils vont devenir eux aussi des enfants légitimes du roi. Et puis, le roi s'occupe évidemment de la situation matrimoniale de sa maîtresse, puisque il fait accorder par les juges du Châtelet directement, il fait accorder à Madame de Montespan la séparation de corps et de bien, ce qui fait que maintenant elle ne peut plus être ennuyée par son mari, qui ne peut plus revendiquer de droits sur elle. Alors, où élever et comment élever les enfants du roi et de Madame de Montespan? Parce qu'il va y en avoir un certain nombre, ça pose un problème. Et on va aller trouver, on va aller dénicher, si je puis dire, une femme remarquable qui est réputée pour son sens de l'éducation, pour sa droiture, etc. C'est la veuve du poète paralytique Scarron. C'est cette petite Madame Scarron bien effacée qui va devenir donc, la mère adoptive et en tout cas l'éducatrice des enfants de Madame de Montespan, qui ne se méfie pas du tout de cette bonne veuve Scarron qui a l'air si gentille. Et pendant ce temps-là, Madame de Montespan imprime sur la cour de France l'empreinte de son incroyable caractère. Elle est terrible. Elle est constamment en colère. Elle est d'un esprit vif et mordant, extrêmement dur. Alors évidemment, elle est très drôle parce qu'elle a l'art que personne ne maîtrise de faire de, comment on appelle ça à la cour, de tourner les ridicules. C'est-à-dire que de n'importe qui, elle est capable de vous faire la pire description. Ça fait beaucoup rire. On s'amuse dans son entourage, d'autant plus qu'elle invente constamment de nouveaux jeux, de nouvelles soirées. Dites-vous que dans son propre appartement, dans le tout nouveau château de Versailles, elle a une galerie dans laquelle il y a carrément des ours qui sont enchaînés là dans la galerie. Vous imaginez l'éclat de la personnalité de cette femme à qui rien ne paraît impossible, mais qui en même temps, et ça forcément peu à peu, ça fatigue Louis XIV, qui en même temps ne cesse de multiplier les scènes, les caprices, les exigences. Le caractère de Madame de Montespan va peu à peu lasser Louis XIV. Un mot de cette mademoiselle de la Vallière, hein, qui subit tout ça dans l'ombre jusqu'à ce qu'en avril 1674, elle se retire définitivement aux Carmélites du faubourg Saint-Jacques. Elle va pouvoir se consacrer à la piété, à la dévotion. Elle mourra bien plus tard dans son cloître. Madame de Montespan ne fait aucun cas du départ de Louise de la Vallière. Elle est beaucoup plus préoccupée par les amourettes que le roi multiplie à la même époque. Il faut dire que Louis XIV, on l'a entendu tout à l'heure se mettre en colère, hein, Madame de Montespan dans le film, dans la du roi. Louis XIV, effectivement, a beaucoup d'aventures et ça, elle le vit mal. Elle le vit d'autant plus mal qu'elle est devenue plutôt la mère de ses enfants qu'autre chose, qu'elle commence à vieillir, bien entendu. Elle ne tardera pas à avoir la quarantaine et puis elle est devenue très en chair et même, disons-le, sur la fin, elle devient carrément obèse. Et celle sur qui elle fait passer ses colères, c'est cette pauvre Madame Scarron que Louis XIV, pour essayer de lui donner une contenance, ne tardera plus à faire à titrer Madame de Maintenon, une Madame de Maintenon qui va vivre bientôt au-dessus de l'appartement du roi avec ses enfants légitimés et qui est aussi douce, aussi calme, aussi parfaitement lisse, d'une égalité d'humeur totale, aussi agréable à vivre que Madame de Montespan est en train de devenir désagréable. Et vous comprenez bien entendu ce qui va se passer. Les mois et les années passant, le roi, qui lui-même est en train de s'assagir, disons-le, va trouver beaucoup plus de charme à Madame de Maintenon qu'à Madame de Montespan. Et chose complètement inouïe, on verra Maintenon détrôner la Montespan. Alors vous savez que Madame de Montespan s'accroche, c'est la célèbre affaire des poisons. A-t-elle fait boire au roi des potions pour garder son amour? C'est une question qui aujourd'hui encore reste en suspens, même si on n'y croit pas trop. En tout cas, Madame de Montespan perd du terrain. Elle finit par perdre son grand appartement. On la délaisse, on l'envoie au rez-de-chaussée du château de Versailles. Et puis petit à petit, comme ça, j'ai envie de dire, elle est sur le départ. Elle va devoir quitter la cour en 1691, mais elle ne mourra qu'en 1707. C'est une très longue déréliction. Elle meurt le 27 mai 1707 seulement. Et l'on dit que le roi apprend sa mort avec une relative indifférence. Voilà ce que nous dit le journal de Dangeau. Avant que le roi partît pour la chasse, on apprit que Madame de Montespan était morte hier à Bourbon. Sa Majesté, après avoir couru le cerf, s'est promenée dans les jardins jusqu'à la nuit. On ne peut pas dire que la mort de son ancienne favorite ait fait tellement d'impression à Louis XIV qu'il l'avait peut-être tout simplement oubliée.
Un extrait sur Europe 1 de La Marche des Mousquetaires de Lully. À suivre sur Europe 1, Franck, votre invité du jour.
Et oui, j'étais déjà avec mon invité du jour, qui est Jean Castarède, qui vient nous parler de ce très bel ouvrage de Paul Rebout, Les Alcôves de Louis XIV, donc chez France Empire, évidemment.
Nous vous retrouvons donc, Franck, avec votre invité du jour, Jean Castarède, qui est économiste, historien, essayiste, président des éditions France Empire, mais aussi avec de nombreux messages d'auditeurs arrivés sur Europe 1.fr.
Il faut dire que je les ai sollicités, Julia, ces messages. Alors, nous avons effectivement quelques points de vue sur l'émission, c'est très intéressant, on va regarder tout ça dans le détail. Patricia nous dit par exemple qu'elle est très satisfaite de nouvelles formules, j'en suis ravi, et elle nous précise que le 5 septembre est également la date du mariage de Louis XV. Donc le Louis XV, l'arrière-arrière-petit-fils de Louis XIV, pas l'arrière-arrière, l'arrière tout simplement, petit-fils de Louis XIV, qui s'est marié avec Marie Leginska le 5 septembre 1725. Merci Patricia. J'habite un village à côté de Fontainebleau, nous dit de son côté Héloïse, village réputé pour les invitations de Louis XIV envers des jeunes filles. Les treilles de raisin servaient souvent de lieu de coquinerie. Tiens donc. Et puis Marie nous dit qu'elle se demandait si ses maîtresses, ses favorites, avaient eu véritablement une influence importante sur la politique du roi. Mais c'est à Jean Castarède qu'il faut poser cette question. Bonjour Jean, merci d'être des nôtres.
Bonjour, et bravo d'avoir changé votre formule. Merci. La précédente était déjà excellente. Usque tandem.
Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une influence de ses maîtresses sur la politique de Louis XIV ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a été beaucoup plus indépendant vis-à-vis des femmes que son grand-père Henri IV. Je suis plus spécialiste d'Henri IV que de Louis XIV et j'ai fait une trilogie des maîtresses d'Henri IV aussi bien que celle de Louis XIV. Par exemple, une des maîtresses d'Henri IV qui était Gabrielle d'Estrées a complètement inspiré sa politique, notamment par l'édit de Nantes. Alors, il y a effectivement le parallèle et l'inverse, c'est que l'on dit que Madame de Maintenon a été à l'origine de la révocation de l'édit de Nantes, qui a été véritablement une tâche dans l'histoire de France, qui a même été très catastrophique sur le plan économique, puisque l'on a vu énormément de spécialistes de l'industrie du luxe, notamment les horlogers, les diamantaires, etc., qui étaient protestants, partir à l'étranger, et ça a été une perte sèche que l'on a chiffrée à plusieurs centaines de milliards de nos euros actuels. Et j'ai écrit un livre sur ce sujet dans mon histoire du luxe. C'est véritablement, je pense, une des plus grosses erreurs économiques commises en France.
Alors, vous êtes vous-même éditeur, Jean Castarède, il faut le dire. Vous êtes le patron de ces éditions France Empire, qui réédite un certain nombre de grands textes qu'on aurait eu tendance à oublier dans les arrières, dans les fonds d'étagères de bibliothèques et qui méritent qu'on les remette dans la lumière. C'est le cas de ce texte de Paul Rebout, qui date de la fin des années 50, c'est ça? Ça s'appelle Les Alcôves de Louis XIV.
Les Alcôves de Louis XIV, qui est extraordinairement bien écrit, très vivant, très savoureux, très truculent. Il faut dire que Paul Rebout, on le connaît surtout par l'auteur de pratiquement cette encyclopédie des pastiches,
oui,
que l'on appelle à la manière d'eux. Et quand on peut
tellement être, drôle, hein, c'était extraordinaire.
On peut être pasticheur, Proust en servait quelque chose, on est un très grand écrivain. Donc il a écrit Les Alcôves de Louis XIV, que j'ai réédité, et qui raconte ce que vous avez raconté vous-même avec beaucoup de talent il y a quelques instants, mais avec son style. C'est pas un historien, il y a des choses qui sont un peu contestables, mais c'est tellement drôle et quelquefois tellement réaliste ce qu'on croit s'y trouver.
Vous me parliez tout à l'heure d'une anecdote concernant Henriette d'Angleterre, donc la première des deux belles-sœurs de Louis XIV.
Alors, c'est pas du tout dans Paul Rebout, c'est simplement un autre de mes auteurs qui va publier un livre incessamment sur ce sujet. Henriette d'Angleterre, comme vous le savez, était la sœur de Charles II, fils tous les deux de Charles Ier, qui avait été guillotiné par Cromwell, pour bien situer l'histoire. Alors, ce que l'on sait moins, et que cet auteur va nous faire découvrir quand j'aurai publié son livre dans quelques temps, c'est que Charles II, qui lui donc était un petit-fils d'Henri IV, était aussi coureur que son grand-père. Et il a eu des relations avec les ancêtres d'une personne dont on célèbre malheureusement en ce moment un horrible anniversaire, qui est, on prononce en français Lady Di, mais qui est Lady Di. Donc Charles II a eu des enfants avec les ancêtres de Lady Di. Donc Lady Di est une descendante d'Henri IV. Ça veut dire, je pense que vous ferez une émission sur le sujet au moment où il y aura une accession au trône. On ne peut pas le fixer. Lorsque le fils du prince Charles et de Lady Di montera sur le trône,
prince William,
je pense qu'il faudra à ce moment-là célébrer l'union entre la France et l'Angleterre, puisque ce sera la première fois que nous aurons un roi d'Angleterre qui sera un descendant d'Henri IV.
Un descendant d'un roi de France.
Et je suppose que ça méritera que vous fassiez plusieurs émissions sur ce que je viens de vous annoncer et découvrir qui est véritablement un scoop.
Est-ce qu'on sera toujours là ? C'est la question. Alors j'aimerais, Jean Castarède, que nous revenions aux deux grandes maîtresses de Louis XIV. Enfin, une maîtresse et puis l'autre, c'est carrément sa femme, puisqu'il l'a épousée secrètement, probablement en octobre 1683, Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Au départ, elles étaient très amies, ces deux-là.
Elles étaient d'autant plus amies que c'était Madame de Maintenon qui élevait les enfants de Madame de Montespan.
Ça.
Et elles se sont très très bien entendues. Alors, quelle est la partie manipulatrice de Madame de Maintenon ? Sans doute qu'elle a eu une arrière-pensée. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Madame de Maintenon était une très jolie femme. Son mari était un peu disgracié, comme vous l'avez rappelé. Mais elle était très belle. Alors, je pense surtout que, d'abord, Madame de Montespan, vous savez que Henri IV, sur une de ses maîtresses, un jour a dit, il l'avait trouvée grossie.
Mais Madame de Montespan,
elle avait vraiment pris du poids au point que ça n'était, elle n'était plus du tout devenue attirante. Et donc, Madame de Maintenon en a profité. Et comme elle est très intelligente, et qu'elle le fait avec beaucoup d'habileté, et au début, avec l'air de ne pas y toucher, enfin, comme on dit, en tout bien, tout honneur. Donc, elle a voulu, à tout prix, prendre la place de Madame de Montespan.
Alors, je ne sais pas si vous êtes allé au Grand Trianon depuis un moment, Jean Castarède. Il y a une exposition en ce moment passionnante qui s'appelle tout simplement « Les Dames de Trianon ». Et parmi les Dames de Trianon, il y a évidemment celle dont nous venons de parler. Nous sommes au téléphone avec le conservateur en chef du Château de Versailles, commissaire de cette exposition qui s'appelle Jérémy Benoît. Bonjour Jérémy Benoît.
Oui, bonjour.
Merci de nous parler de... Comment les avez-vous mises en scène, ces Dames de Trianon ?
Oh bien écoutez, c'est un concept un peu nouveau d'une certaine façon, parce qu'au lieu de mettre les portraits sur des murs, traditionnellement si vous voulez, dans l'ordre chronologique des dames qui ont habité le palais de Trianon, elles ont été disposées en fait sur des chevalets au milieu des meubles, dans les salons, de manière un petit peu désorganisée si vous voulez, mais en même temps, certaines semblent nous inviter à passer de salon en salon en tendant la main.
Elles sont là
marchant.
Dans le milieu des pièces, hein. J'ai pas encore
elles
vu.
Elles sont au
moi,
milieu mais... des pièces, oui. Absolument. Et donc, elles ont été surtout placées pour certaines, autant que cela pouvait se faire, dans des emplacements originaux, c'est-à-dire, par exemple, la plupart du temps, c'était dans leur chambre. Mm-hmm. C'est ainsi que, évidemment, c'est une exposition qui couvre les trois siècles de l'histoire de Trianon, de Louis XIV jusqu'au roi Louis-Philippe. Mais nous avons, par exemple, l'impératrice Marie-Louise, la deuxième épouse de Napoléon, donc, mm-hmm. qui se trouve dans sa chambre, au milieu de ses meubles, regardant l'alcôve et le lit dans lequel elle dormait. Nous avons également la reine des Belges, fille du
de
roi
Louis-Philippe,
bien sûr.
Et la duchesse de Bourgogne, dont je parlais tout à l'heure.
Oui,
etc.
La duchesse de Bourgogne, qui est replacée dans le salon des Malachites, qui était effectivement à l'époque de Louis XIV sa chambre, depuis 1798.
Eh bien, on va aller voir ça. Merci beaucoup de nous avoir donné, mis l'eau à la bouche. Jérémy Benoît, vous nous parliez de cette exposition Les Dames de Trianon, qui se tient au Grand Trianon jusqu'au 14 octobre. Et puis, je rappelle, de Paul Rebout, Les Alcôves de Louis XIV, c'est édité chez France Empire. Merci beaucoup, Jean Castaret.
Merci.
Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors vous le savez, c'est la semaine spéciale rentrée pour tout le monde et pour les experts Europe 1 également qui vont s'intéresser aujourd'hui à la corvée des parents et des élèves. Je veux parler des devoirs. Comment faire en sorte que ça se passe dans des conditions optimales, plutôt tranquilles, sereines et qu'ils soient efficaces. On en parle et on attend vos témoignages. Comment ça se passe chez vous et vos questions au 39-21, 34 centimes d'euros la minute.
Merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain, Julia.
Avec plaisir sur Europe 1. À demain Franck.